questions. Donc, nous avons trois questions du groupe Rambouillet en commun. Je vous laisse donc pour la première question.
Alors, on est tous avec notre éventail, on n'en peut plus, les fenêtres sont fermées. Donc, évidemment, c'est un des mois de juin les plus chauds. C'est répertorié. On sait évidemment ce qu'on craint, c'est les canicules cet été et les étés suivants. Je ne vous apprends rien. Donc, il y a des zones de rafraîchissement qui sont prévues donc, dans la résidence du Bon Vieux Temps. On a pu le constater, on en est ravis. Première question, est-ce que dans les autres lieux, je parle des EHPAD évidemment, de résidences seniors, est-ce que ces zones de rafraîchissement vont être mises en place? Mais aussi pour les écoles, les centres de loisirs et les crèches. Ça, c'est une première question. S'ensuit donc après sur les espaces extérieurs. Évidemment, les zones de rafraîchissement, il y a plusieurs types de possibilités pour y répondre. Est-ce qu'elles vont être mises en place? Quand? Où en est le plan végétalisation pour la ville? Aussi, on aimerait avoir une réponse sur les essences qui vont être mises en place en termes d'arbres, les essences pour lutter contre les futures canicules. Est-ce que vous en avez une idée? Après, c'est un peu beaucoup de questions, mais aussi le résultat en fait, de l'enquête publique concernant le recensement des arbres remarquables. Et en même temps, le résultat du patrimoine végétal qui avait été effectué par l'OMS. Voilà, l'ONF. Voilà.
Oui, c'est l'ONF.
J'ai été rapide, j'ai réduit, mais l'essentiel est là.
Alors, Madame la conseillère, alors effectivement, des zones de rafraîchissement en cas de forte chaleur ou de canicule existent au sein de la résidence du Bon Vieux Temps, d'une part, qui s'ouvre d'ailleurs au public en cas de canicule. Nous travaillons à la mise en place d'un répertoire des lieux publics ou commerces climatisés afin d'en faciliter l'accès à la population. Et nous avons pour cela, avec le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, les recommandations aux maires pour les bonnes pratiques qui va nous servir aussi de bible pendant toute cette période estivale. En ce qui concerne les EHPAD, alors les EHPAD sont des lieux publics pour celui de l'hôpital et privés pour celui des cheminots, mais ils ont également une zone rafraîchie. En ce qui concerne les écoles, les centres de loisirs, les crèches, en période de chaleur extrême, il faut savoir que les services techniques procèdent systématiquement au déploiement d'un nombre important de brumisateurs dans les bâtiments communaux afin d'offrir un environnement plus frais et confortable. Et certaines salles sont également ciblées comme locales climatisées avec un équipement de climatiseurs mobiles. Mais je rappelle que lorsque nous sommes sur des populations d'enfants, nous ne devons pas les mettre en permanence dans des salles climatisées. La distribution des brumisateurs et des climatiseurs n'est qu'une partie d'une approche globale de gestion de la canicule. Il est également essentiel de promouvoir des comportements préventifs tels que l'hydratation régulière. Mais ça, en général, les enseignants et nos personnels le savent parfaitement. Le rafraîchissement nocturne avec l'ouverture pendant la nuit et les heures fraîches. L'occultation des baies, notamment, dès lors que le jour s'est levé. Le plan école lancé en début de mandature participe également par des opérations de réhabilitation partielle ou totale du parc bâtimentaire scolaire à l'amélioration du confort thermique des utilisateurs. Nous l'avons en exemple, par exemple, sur l'école d'Arbouville. Concernant l'espace extérieur, les services techniques et les équipes du pôle famille organisent et orientent les enfants. Alors, quand on est sur le public enfant, orientent les enfants vers les lieux les moins exposés à la chaleur. Conscient de l'amplification du phénomène d'îlots de chaleur dans ces mêmes cours de récréation, il a été validé le lancement d'un projet d'aménagement de ces espaces dénommés cours nature. Ce projet vise prioritairement à la création d'îlots de fraîcheur végétalisés, plus agréables et mieux partagés par tous. Ce nouveau projet s'inspire du dispositif cours oasis. Donc là, nous en sommes à des études préparatoires dès la rentrée, qui seront initiées dès la rentrée de septembre sur quelques établissements tests et en concertation avec leurs utilisateurs sur la façon et la manière de le proposer pour le budget primitif 2024 des actions opérationnelles dès l'année prochaine. Et évidemment, avec ces cours nature, l'ouverture de ces cours en dehors des heures scolaires pour la population. D'une manière plus générale, la ville de Rambouillet peut compter aussi sur la présence d'espaces verts, considérés comme îlots de fraîcheur répartis dans toute la ville Pour exemple, on a le parc du Château, le jardin du Roi de Rome, la place Tom Patenôtre, le jardin de la Motte, le bois des Cheminots, le parc de Grousset, le petit bois de la Coulée Verte à la Clairière et les environs de l'Hippodrome. Concernant le plan de végétalisation dans une ville à la surface recouverte par 80% d'espaces forestiers, naturels et agricoles, la ville a engagé l'ambitieux projet de réintroduire et remettre en valeur la nature en ville aux côtés de grands parcs qui la jalonnent et avec la délicate mission de conjuguer tous les patrimoines, ce qui n'est pas facile. Cet objectif est un point important de notre PLU qui prévoit dans son PADD de renforcer la place de la nature en ville et inciter à la végétalisation en domaine public et privé, d'introduire des espèces végétalisées dans les espaces urbains pour améliorer la qualité environnementale et paysagère des sites urbanisés et lutter contre les effets îlots de chaleur, de conforter et renforcer l'ambiance végétale du territoire et protéger les arbres remarquables en ville et de protéger les cœurs d'îlots déjà végétalisés. D'ores et déjà, un plan de végétalisation est en cours de réalisation par le changement de méthode dans l'entretien de 540 000 m² d'espaces verts de la ville avec la mise en œuvre depuis un an d'une véritable gestion différenciée dont on a parlé tout à l'heure.
Je la constate, elle est devant chez moi.
Voilà, donc ça en fait partie.
Je vous laisse finir.
Merci. Différents projets végétalisés, malgré le contexte économique dégradé, se sont concrétisés à travers la réalisation de toitures végétalisées, par exemple à l'école d'Arbouville, mais également Duclat et Clairbois, qui en bénéficiera, à travers des budgets participatifs, ou bien vont se concrétiser aussi dans quelques mois, comme le projet d'aménagement du carrefour Tivoli, sur lequel nous envisageons une revégétalisation. D'autres sont différés de quelques mois, comme le pôle Gare, la place de l'Europe, mais intègrent cette dimension environnementale. Chaque intervention de la ville sur l'espace public prévoit de libérer des surfaces imperméables pour les végétaliser. Enfin, d'autres projets innovants sont en cours d'étude, comme les évolutions que nos serres pourraient connaître pour accompagner les changements de comportement ou comment les nouvelles technologies pourraient nous aider à optimiser cette gestion environnementale. Concernant le recensement des arbres remarquables dans le cadre de la révision générale du PLU, la ville a lancé au printemps le premier recensement participatif des arbres d'intérêt local. 32 contributions ont été reçues de la part de propriétaires, de locataires, de conseils syndicaux de copropriété. La plupart des arbres recensés sont sur l'espace privé, puisqu'on est à 84%. Les contributions ont été transmises à l'ONF qui nous accompagne sur cette démarche. Cette initiative pourra être renouvelée, bien sûr. Et dans l'attente, un formulaire sera mis en ligne sur le site internet dans la rubrique urbanisme pour toute personne souhaitant contribuer au recensement des arbres remarquables sur la commune. Enfin, la phase inventaire et diagnostic du patrimoine arboré par l'ONF s'achèvera fin 2023. La mission initiale estimée à 5000 sujets, l'ensemble du patrimoine, il sera vraisemblablement réalisé sur 6000 sujets au total. Le plan de gestion du patrimoine arboré sera finalisé pour fin 2024 et la liste des essences préconisées pour la replantation de végétaux n'est pas exhaustive et le travail d'évaluation des essences les plus adaptées aux futures canicules et sécheresses nécessitera une phase d'expérimentation par la diversification et l'adaptation des essences au contexte urbain. Et bien sûr, on se fera là encore accompagné par l'ONF.
Merci.
La deuxième question.
Alors, une deuxième question qui fait un petit peu suite à la première. Sur la sécheresse qui s'est installée durablement sur une bonne partie de la France et notre région, et sur l'invitation que cela fait à la sobriété en matière d'usage de l'eau. Et j'ajoute un petit détail que je n'avais pas mis dans ma question, que le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, demande une baisse de 10% des prélèvements en eau d'ici 2025 et de 25% d'ici 2035. Là, on est dans de la sobriété très concrète. Et donc, je voudrais savoir ce qu'il en est de la politique de notre ville dans ce domaine de la sobriété dans l'usage de l'eau. Par exemple, est-ce qu'on a pu mettre en place une lutte efficace contre les fuites d'eau qui peuvent faire perdre jusqu'à 30% de l'eau passant dans nos canalisations, et notamment grâce à une cartographie de notre réseau, une cartographie complète. Même si la compétence eau est passée à la communauté d'agglomération et que c'est plutôt le préfet qui peut émettre un arrêté limitant les usages de l'eau, la ville-centre de la carte se doit d'avoir donc une politique de sobriété. Et par exemple, dans le même esprit, est-ce qu'il y a des projets de récupération de l'eau de pluie qui pourraient servir pour les serres de la ville, le nettoyage des rues, le nettoyage du marché? Enfin, je voudrais évoquer le fait qu'une sortie d'école, l'école de la Louvière, devait aller en forêt et que ça a été interdit à cause d'un risque d'incendie. Donc, on voit que là, la situation de sécheresse était vraiment très préoccupante. Et alors, dans ce cadre-là, on se demande pourquoi des étangs restent à sec, comme le Coupe-Gorge et le Gruyer, qui pourraient servir à la biodiversité et à éteindre d'éventuels incendies, s'il y en avait cet été. Alors qu'en parallèle, toutes les mares sont en cours d'assèchement. Là, c'était le gros titre des nouvelles. Merci.
Alors, Madame la conseillère, bien que vous connaissiez l'engagement indéfectible de la majorité municipale sur les sujets relevant des enjeux environnementaux, je ne peux pas répondre à une partie de la question qui relève non pas de la compétence communale, mais de celle de la communauté d'agglomération de Rambouillet Territoire, comme vous l'avez dit. La compétence eau et assainissement ayant été transférée à Rambouillet Territoire le 1er janvier 2020, et la GEMAPI dépendant directement de celle-ci et la gestion des étangs, je vous laisse prendre contact avec son président. Le sujet devant être traité dans le cadre de la communauté d'agglomération et non en conseil municipal. Concernant les fuites d'eau dans le domaine communal privé, parc bâtimentaire, une analyse complète des factures d'eau et de la consommation a été effectuée pour les bâtiments communaux en 2022 en partenariat avec le bureau d'études Jalex Environnement. L'objectif principal de cette analyse étant de déterminer s'il y avait des fuites ou des problèmes de surconsommation d'eau. Ces relevés ont été comparés aux normes de consommation d'eau acceptables pour des bâtiments de taille similaire et d'utilisation comparable. Les résultats ont révélé l'absence de fuites. Cette analyse est essentielle car les fuites d'eau peuvent entraîner un gaspillage considérable des ressources en eau et des coûts financiers, qui plus est importants. Le territoire de Rambouillet est actuellement toujours en situation de vigilance en termes de restriction d'eau, contrairement aux territoires adjacents qui sont déjà, eux, en état d'alerte ou de crise. Les services de la ville sont particulièrement sensibilisés sur cette question, en particulier les services techniques et la police municipale dans l'application des arrêtés correspondants, et suivent l'actualité de ces restrictions en eau à travers le site officiel gouvernemental Propluvia. La ville dispose aujourd'hui de 3 bassins principaux de récupération des eaux au centre municipal de la Vénerie, d'une capacité de 50 mètres cubes, sur la place Marie-Roux, d'une capacité de 100 mètres cubes, et sur le site du pôle culturel de la Lanterne, d'une capacité de 72 mètres cubes. Des cuves de récupération plus modestes en volume sont en cours de programmation au sein des équipements scolaires, notamment et à travers les budgets participatifs, ainsi que du projet des cours nature dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le comité de sobriété énergétique s'est ainsi saisi dès le début de l'année de la problématique sécheresse accentuée et a orienté ses réflexions dans la recherche de solutions préexistantes et réparties sur le territoire. Un recensement des bassins d'orage et d'agrément est en cours, intégrant comme critère d'éligibilité la capacité de stockage réutilisable au regard du risque d'inondation. À l'issue de celui-ci, seront chiffrés pour proposition au budget primitif 2024 des équipements de pompage et de mesure des volumes prélevés à destination première de l'entretien des espaces verts et de la voirie. Parallèlement, le comité de suivi des fluides a élaboré les mêmes tableaux de bord que pour l'électricité et pour le gaz pour suivre avec acuité les consommations en eau des différents équipements de la ville. Une expérimentation basée sur l'utilisation des nouvelles technologies et sur le concept de jardin de pluie urbain pour adapter l'arrosage à la demande depuis des récupérateurs d'eau est également en cours de construction, visée opérationnelle octobre pour test et déploiement potentiel à plus grande échelle dès 2024. Enfin, une formation complémentaire des cadres de la collectivité en matière de sobriété est programmée fin septembre 2023. Voilà, Madame Poulet-Beaulieu. Et la troisième question.
Les mairies disposent de leviers pour mettre en œuvre la transition agricole nécessaire à la souveraineté alimentaire pour une résilience locale, de manière à approvisionner la restauration collective, école, hôpital, maison de retraite, administration communale, ainsi que pour l'alimentation des habitants. Quelle est la politique municipale pour préserver ces terres agricoles et favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs et agricultrices en maraîchage bio, ceci afin de proposer des produits sains, de réduire l'impact carbone de notre alimentation et aussi de protéger les aires d'alimentation des captages d'eau. Sujet qui fut d'ailleurs abordé aujourd'hui lors de la révision de la charte au PNR. D'autre part, quel est le projet pour les 6 hectares de chemin de l'Étendard préempté en août en début 2021?
Alors, monsieur le conseiller municipal, comme inscrit au sein du projet d'aménagement et de développement durable, le fameux PADD, qui constitue le cœur de la volonté politique autour du futur PLU, nous souhaitons faire de Rambouillet une ville durable et éco-responsable, durable et éco-responsable dans le domaine de l'urbanisme, mais aussi dans tous les autres domaines qui relèvent de la compétence de la commune, que ce soit au travers des réhabilitations énergétiques structurantes que nous menons dans nos écoles ou que ce soit au travers de notre choix de favoriser les circuits courts, ultra-courts et le bio dans nos écoles. Rappelons toutes ces avancées majeures qui témoignent de la cohérence de la politique de transition écologique portée par la municipalité et qui rejoignent vos attentes. Ainsi, vous comprendrez que nous attachons une importance particulière à la préservation de nos espaces agricoles et à la défense des intérêts de nos agriculteurs. Nous comptons à Rambouillet 2 agriculteurs, dont un qui vend à la ferme ses produits en circuit court. Une pratique vertueuse qui permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en améliorant les conditions des agriculteurs. Précisons néanmoins qu'ils ne pratiquent pas à grande échelle le maraîchage car celui-ci n'est pas adapté à notre territoire. Sachez que nous sommes en lien avec eux et avec la Chambre d'agriculture et la SAFER qui les accompagne et d'autre part que nous avons tenu à conserver ces mêmes terres agricoles en zone A dans notre futur PLU, un geste fort de protection de cette activité, difficile à concilier avec l'urbanisation massive en Île-de-France demandée par l'État. Enfin, concernant les 6 hectares préemptés avec la SAFER en 2021, la SAFER n'a pas trouvé à ce jour de preneur dont l'activité soit compatible avec les contraintes du site. Nous travaillons donc avec le PNR pour une renaturation du terrain. Voilà, monsieur.
Merci. Je comprends qu'effectivement, les agriculteurs actuels qui font des céréales ou autres, ils ne vont pas se mettre à faire du maraîchage du jour au lendemain. C'est simplement, en cas de départ d'agriculteur, qu'il y ait une veille avec la SAFER pour pouvoir ou préempter les terres afin d'orienter vers le maraîchage et permettre une résilience locale en alimentation.
Oui, monsieur Poulet, voilà. Bien sûr, mais nous sommes... Nous accompagnons ces agriculteurs et surtout la Chambre d'agriculture et la SAFER. Et j'apprends beaucoup de choses en étant maire, même si je suis d'un côté de ma famille terrienne. Eh bien, je ne pense pas vous apprendre grand-chose en vous disant que toutes les terres ne sont pas prêtes à recevoir du maraîchage et qu'il faut aussi avoir un apport d'eau qui n'est pas possible sur certaines terres à l'intérieur des terres qui sont actuellement agricoles sur la zone de Rambouillet. Donc voilà, c'est aussi les limites en catégorie de qualité de terre. Voilà, il y a la volonté, mais il y a aussi le côté pratico-pratique.
Ok, je vous remercie. On pourra continuer plus tard cette discussion.
Voilà. Eh bien, nous allons pouvoir conclure ce dernier conseil municipal avant l'été, qui s'annonce chaud en effet. Et je vous remercie, je vous souhaite un bon été et nous nous retrouverons pour le prochain conseil municipal le 29 septembre, si mes informations sont exactes. Bonne soirée à tous, je lève donc la séance.